des éclats de voix tirent Lynn de son sommeil. Lorsqu'elle ouvre les yeux, elle constate qu'elle n'a toujours pas quitté cet état paradoxal, à la fois végétatif et éveillé. La tribu des primates est en effervescence. Une vive discussion oppose Mento à Yut. Le plus jeune des deux s'en prend courageusement à son supérieur. Je ne suis plus d'accord, tout cela va trop loin. Le dernier tremblement de terre a fait beaucoup de dégâts, et pas uniquement parmi les humains. Un nombre inestimable d'animaux ont aussi péri dans cette catastrophe, sans parler des dégâts à la nature. Ce sont des pertes inévitables. Aucune victoire ne peut être engrangée sans sacrifice. Qui nous dit que nos actions n'accélèrent pas le processus de destruction de la planète ? S'inquiète Mento. Ce n'est pas encore à grande échelle. On est loin de la phase globale et planétaire. Je sais ce que je fais. Tandis que Yut fulmine, Mento a l'idée de jouer la carte du défi. Il s'est remémoré le regard de son compère au chevet de la dame et provoque le mâle dominant. Peut-être as-tu simplement peur de la force de cette femme. Peut-être as-tu peur de te mesurer à elle. Ne sois pas ridicule, que veux-tu qu'elle fasse? Elle ne comprend pas la moitié de ce que nous faisons. Elle n'a pas le moindre soupçon de ce dont nous sommes capables.
Moi, je pense qu'elle capte bien plus d'informations que nous ne le pensons, rétorque Mento,
et qu'elle pourrait plaider notre cause auprès de ses semblables.
Quelle naïveté, mon pauvre Mento, tu es lamentable.
Je n'ai pas peur, quoi que tu en dises.
Prouve-le.
Quoi ? Yut est estomaqué par l'impudence de son congénère, mais se surprend à apprécier l'idée de se mesurer à l'être humain. Il concède.
Soit. Dans un premier temps, nous libérerons le cerveau de la femme. Nous diminuerons les doses pour lui rendre son autonomie, mais pas trop, pour garder le contrôle de son corps. Elle jouera les intermédiaires pour amener les humains à prouver leur intelligence et leur volonté de sauver la planète.
Merci, dit Mento.
Inutile de me remercier. Ce n'est pas une faveur que je te rends, répond Yut sur un ton cinglant.
J'aime jouer. J'aime gagner.
Et là, mes chances de gagner ne font aucun doute. Ce n'est pas ta petite écervelée qui changera quoi que ce soit.
Il est trop tard, Mento. Trop tard, dit-il en martelant les syllabes. Tu peux comprendre ça?
Non, je ne crois pas qu'il soit trop tard. La nature est forte et les hommes ne sont pas foncièrement mauvais.
Bien dit, pense Lynn, qui assiste crispée à la discussion. Une angoisse l'avait étreinte au moment où elle avait compris qu'il parlait d'elle, mais elle s'était aussitôt forcée à chasser la peur, consciente que seule la sérénité ou, à défaut, l'état méditatif lui permettait de rester connectée au cerveau des hominidés.
C'est qu'ils vont me refiler le bourdon, ces olibrius, pense-t-elle.
Toutes ces catastrophes inexpliquées seraient l'effet des animaux qui se liguent contre les humains.
Qui croirait une ineptie pareille?
Tout à coup, la silhouette de Mento se dresse aux côtés de Lynn. Il la fixe de son regard déterminé. Alors que le primate s'agite d'un air gauche à son chevet, elle comprend par une série de flashs dont elle reconnaît le mécanisme pour l'avoir déjà vécu dans la réalité, le plan fomenté par les animaux, sous la houlette de Yut, est destiné à éradiquer la race humaine. Elle comprend la révolte des animaux à la vue de la destruction sans cesse plus poussée de leur habitat et leur volonté de s'attaquer désormais aux humains. Les attaques avaient été mineures dans un premier temps et n'avaient blessé personne. Elle se souvient effectivement de ces fissures inexpliquées dans les constructions en France et dans le sol au Chili, et adresse un regard interrogateur à Mento, l'air de dire « Comment est-ce possible ?»
Et Mento, un petit sourire aux lèvres, de visualiser une armée de campagnols à l'œuvre sous les fondations des maisons et des routes. Le quadrumane explique que les humains étant obtus,
Les attaques sont devenues de plus en plus meurtrières. Lynn interpelle Mento. Pourquoi me raconter tout cela? Et qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi ne suis-je pas libre de mes mouvements? Au départ, réplique Mento, les animaux agissaient individuellement ou par espèce, en s'inspirant de ce que réalisaient d'autres espèces sur d'autres continents. Une véritable surenchère. Mais Yut veut fédérer l'ensemble de la faune mondiale pour éradiquer définitivement la race humaine. Son plan est prêt. Et moi, insiste Lynn, qu'est-ce que je viens faire dans tout cela? J'aime les animaux, je les respecte. Je respecte la nature du mieux que je peux. Yut a mis au point un plan d'éradication incluant l'ensemble des animaux, mais ils ont besoin de l'intervention de l'homme. Ils enlèvent donc des êtres humains à qui ils injectent en continu une substance provoquant l'annihilation de toute volonté. Comment ça, ils injectent ? L'interrompt Lynn. Tu ne vas pas me faire croire qu'un singe est capable d'administrer quoi que ce soit à un être humain. Lynn, répond Mento sur un ton paternaliste, que fais-tu de l'hypnose ? La suggestion mentale, peu importe le terme. Il est tellement aisé de manipuler le cerveau des gens. Alors que Lynn le considère d'un regard sidéré, l'hominidé poursuit. Tu ne vas pas me dire que tu n'es pas consciente de l'endoctrinement des masses à l'échelle planétaire. Pas un seul endroit du monde n'est épargné. Tous les peuples ont leur religion, leurs croyances, leurs traditions, parfois tellement destructrices. Lynn réagit. Les gens ont besoin de croire pour se raccrocher à quelque chose, pour ne pas désespérer. La vie est tellement dure. Ce sont les humains qui sont durs, cruels même. Ils vont jusqu'à mutiler, torturer, tuer, au nom de croyances ancestrales ou de religions, à croire qu'ils n'ont plus la faculté de penser par eux-mêmes. Lynn chasse de son esprit la pensée oppressante des excisions que le mot « mutilé » a évoquées dans son esprit. Mento commente. Oui, c'est ça. C'est commode, hein, de fermer les yeux sur la cruauté humaine. Il est plus facile de chasser la pensée quand elle dérange, n'est-ce pas? Une telle souffrance infligée à vos semblables, au nom d'une croyance, d'une religion. L'hominidé a secoué la tête de droite à gauche, signifiant qu'à ses yeux, ces actes d'humain dépassent l'entendement. Lynn tente une justification. Le problème de toute religion, c'est que les gens ont besoin de croire au miracle, fuir tout simplement la réalité tellement dure à supporter parfois. La vie est un miracle, répond Mento. La nature est un miracle permanent. Il n'y a que deux façons de vivre sa vie. L'une en faisant comme si rien n'était un miracle, l'autre en faisant comme si tout était un miracle. Lynn est bien tentée de se laisser convaincre, mais force est de constater qu'elle converse avec un grand singe et qui cite Einstein par-dessus le marché. Mento fait comme s'il n'avait rien entendu, mais ne peut réprimer un sourire d'autosatisfaction tandis qu'il poursuit. Et ce lien qui nous unit tous les êtres vivants de cette planète. On est tous dans une enveloppe différente, les plantes, les animaux, les êtres humains, mais on est tous pareils. On fait partie d'un tout. On est tous un petit bout de l'autre, des autres. Te sens-tu si différente de moi? Je suis juste dans une autre enveloppe corporelle que toi, mais la différence s'arrête là. Lynn ne peut s'empêcher de rire à l'évocation de l'enveloppe. Elle réplique. Tu me fais penser à ce film, je ne sais pas si tu l'as vu. Ma pauvre fille, s'interrompt-elle. Tu demandes à un primate s'il a vu un film. Oh, et puis zut, au point où j'en suis. Elle poursuit. Ce film où le héros est accueilli par un moine tibétain qui, tout en parlant à son hôte, prend une théière et laisse infuser du thé. Puis il en verse dans une tasse,
Ses gestes sont calmes, lents et précis. Il demande à son hôte « Qu'est-il dans cette tasse ?» L'hôte répond du thé. Sans attendre, le moine prend alors la tasse par l'anse et la fracasse sur la table. La porcelaine se brise et répand le thé sur le bois. Sous les yeux ahuris de l'hôte, le moine, toujours aussi serein, s'empare d'une serviette et se met à éponger le liquide. Il tord ensuite la serviette au-dessus d'un bol et redemande à son hôte ce qu'il y a dans le bol. Du thé, qu'il soit dans la théière, dans la tasse, dans le tissu ou dans le bol, c'est toujours le même thé. Je pense que le message qu'essayait de transmettre le moine était que l'enveloppe corporelle ne compte pas, que l'âme reste la même, quel que soit le contenant. Comme Lynn s'est tue, le primate reprend la parole. N'as-tu pas cru toi-même pendant des années de ferveur catholique qu'une femme pouvait tomber enceinte sans même être fécondée? Et tu ne parviens pas à croire qu'un anthropoïde puisse prendre le contrôle du cerveau d'un humain? Anthropoïde, songe Lynn. Voilà qu'il parle comme un savant, mais je rêve. Une fraction de seconde lui suffit pour comprendre ahuri. Mais oui, c'est bien ça, je rêve et j'en ai conscience. Comment s'appelle déjà ce type de rêve? Un rêve lucide, voilà, c'est ça. Je fais un rêve lucide. Elle entreprend d'expliquer au singe ce qu'elle avait lu dans un magazine à propos du rêve lucide. Au lieu de capter les informations du monde extérieur comme pendant la journée, le cerveau projette sur notre rétine les images que nous avons enregistrées. Nous avons donc l'impression qu'il s'agit d'images extérieures, alors qu'en fait, il s'agit d'une forme d'hallucination. Nous interprétons ces images pour en faire une histoire. Or, pendant un rêve, comme la mémoire à court terme ne fonctionne pas, nous ne remarquons pas les situations incohérentes. Ce n'est qu'au réveil, lorsque la mémoire à court terme se remet en marche, que nous nous rendons compte de l'irrationalité de certains détails. Un psychologue américain a mené une expérience et a démontré qu'on peut être conscient quand on rêve. Il a placé des volontaires dans un laboratoire du sommeil et leur a demandé de bouger lentement les paupières dès qu'ils étaient conscients de rêver, en marquant des pauses de 30 secondes entre deux mouvements. Les autres parties de leur corps étaient inertes, prouvant qu'ils dormaient. En théorie, expliquait le psychologue, il ne faut aucune disposition particulière pour appliquer la technique, juste affûter sa lucidité, prendre pleinement conscience de ce que l'on vit et de ce qui nous entoure plusieurs fois par jour, et mémoriser consciemment ses gestes pour les inscrire dans les rêves. En d'autres termes, en atteignant l'état de rêve lucide, on ne débranche pas sa mémoire à court terme. Pendant le sommeil, on identifie les situations étranges et on comprend que l'on rêve. Soulagé d'avoir enfin trouvé une explication plausible à sa situation, Lynn achève son petit exposé par un triomphant « cause toujours, je sais à présent que tout ceci n'est qu'un rêve ». Imperturbable, Mento reprend ses commentaires. Je ne sais pas trop quel vocable utiliser pour te faire comprendre le mécanisme, mais prenons le terme qui sera le plus évocateur pour toi. Imagine que la téléportation soit possible. On téléporte le cerveau d'orang-outan, qui utilise ainsi l'enveloppe corporelle des êtres humains, pour accomplir tout ce qu'ils ne peuvent faire eux-mêmes. Téléportation, n'importe quoi, le couple Lynn. Guillerette, depuis qu'elle a la conviction de faire un rêve lucide, elle plaisante. « Tu es mignon, mais tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. » L'allusion à la publicité ne fait visiblement pas rire le primate, et Lynn se demande si les singes ont le sens de l'humour. En réponse, Mento lui adresse un regard chargé d'une tristesse teintée d'un tel découragement qu'il ébranle la femme. Elle a beau savoir qu'elle rêve, elle pressent que ce qu'elle s'apprête à entendre est peu réjouissant. Attends d'avoir saisi la totalité de la situation. On verra bien après si tu as toujours le cœur à rire.
Et puis zut, je vais te montrer, ça ira plus vite. Tu n'auras qu'à me suivre en pensée. » Soudainement, Lynn se retrouve dans une chambre identique à celle où son propre corps est allongé pendant que ses méninges jouent les filles de l'air. Elle soupire de soulagement à l'idée que la jeune femme aux superbes cheveux châtains qu'elle voit là n'a nullement l'air de souffrir. Mento réagit instantanément à cette pensée qu'il a interceptée en imposant une autre image à Lynn. Celle-ci sent son cœur se serrer devant le spectacle de jumeaux en larmes, l'un dans les bras d'un homme, l'autre dans les bras d'une femme plus âgée, qui secoue le bébé comme un prunier dans l'espoir, de toute évidence vain, de le calmer, alors qu'elle est visiblement elle-même dans un état d'agitation extrême. Étrange cette manie qu'ont les Occidentaux de faire tressauter les bébés dans leurs bras. C'est pas un Orangina, pense Lynn. Comme si nous aimerions être ballottés ainsi pendant des heures. Lynn interroge Mento. Que se passe-t-il? Ils ont enlevé la mer. Enlevé, je veux dire, vraiment. Pas simplement colonisé comme toi. Sympa le coloniser, songe Lynn. Mais elle ne relève pas, jugeant le moment mal choisi, tandis que Mento poursuit. Son enveloppe corporelle n'est plus auprès de ses enfants qu'elle allaitait encore, un sevrage plutôt brutal. Mento est visiblement réticent à raconter à Lynn l'étendue du machiavélisme de Yut. Il s'efforce néanmoins de raconter l'expérience menée par l'orang-outan dominant. Tu as certainement déjà entendu parler de braconniers qui tuent la mère chimpanzée pour voler leurs petits. Oui. Et si l'on faisait pareil avec les humains? Tu imagines une mère en rue qui porte son enfant dans les bras et que l'on abat d'une balle en pleine poitrine? Tu le vois, le bébé, chuter durement sur le sol? Tu le vois? Et tu la ressens, la peur panique du petit? Le transport, la cage, les odeurs nauséabondes des excréments et de l'urine au bout de quelques heures. Mento peine à contenir sa révolte. Il laisse passer quelques instants, le temps de trouver l'apaisement, et reprend son exposé d'une voix plus doctorale. Yut voulait tuer les bébés pour capturer les mères, mais pas n'importe lesquelles, uniquement celles de jumeaux, de triplés. J'ai réussi à l'en dissuader et à le convaincre de se contenter d'enlever les mères. Les mères? Donc celle-ci n'est pas la seule? Demande Lynn. Ben non, qu'est-ce que tu crois? Mais pourquoi? Et pourquoi les mères de jumeaux? Elles servent de cobaye aux expérimentations. Lynn n'est plus sûre de vouloir entendre le reste. L'orang-outan poursuit. Il prélève toutes sortes d'échantillons de je ne sais trop quoi chez les mères et analyse les processus qui déterminent la gémellité. Il cherche à les transposer aux grands singes pour intensifier la reproduction et repeupler les espèces. Mais c'est génial! Oups, on ne va peut-être pas s'emballer non plus, se reprend-elle en aparté avant de poursuivre. Pourquoi me raconter la vérité? C'est Kimsi qui m'a poussé à le faire. Mais pourquoi? Mento se contente de la regarder fixement, l'air de dire: allons, ne pose pas de questions dont tu connais la réponse. Ah oui, elle aussi est maman de jumeaux. Elle se tait un instant, émerveillée de la compassion dont fait preuve l'orang-outan à l'égard d'êtres humains, alors même que la plupart d'entre eux s'acharne à menacer la survie de ses propres petits, avant de reprendre. Quelque chose m'échappe. Tu m'as dit qu'ils ont enlevé la mer et ne l'ont pas simplement colonisée comme moi. Tu veux dire que mon corps ne se trouve pas dans l'autre chambre, comme je le pense, mais ailleurs? Mento, qui s'était détourné du lit, se dirige vers la porte, ignorant la question de la femme. « Viens, dit-il. Yut est à ton chevet, il veut te voir. »« Tant mieux, je vais lui dire ma façon de penser à celui-là. » Alors qu'elle se retrouve devant l'orang-outan, Lynn se calme à l'idée que tout ce qu'elle entend, voit, vit, lui semble-t-il du moins, relève tout simplement d'un cauchemar dont elle va bien finir par se débarrasser à son réveil. Le primate la toise en silence. Elle l'apostrophe sans ménagement. « C'est pas bientôt fini, ce cirque? C'est quoi cette histoire abracadabrant de téléportation? Je sais que je rêve, donc tu peux me raconter n'importe quoi. Mais je n'ai visiblement pas la faculté de me réveiller comme je le souhaite, alors autant comprendre. »
Yut l'ignore, se contentant d'observer la femme d'un regard dédaigneux.
Mento prend la parole. « Ce n'est pas n'importe quoi. Tu as sûrement déjà entendu parler de physique quantique. On explose deux atomes distincts qui libèrent chacun un photon que l'on transporte par fibre optique en un troisième endroit.
« Oh, stop! Tu me donnes mal à la tête, Einstein. Si la téléportation était réellement possible, ça se saurait. On l'aurait déjà expérimenté, nous, les humains. »
« Quelle prétention !» rétorque Mento, imperturbable.
« Laisse tomber la partie physique, » dit Lynn. « Admettons que je te crois. Vous enlevez des êtres humains, vous pratiquez des expériences génétiques sur eux. Comment faites-vous pour transporter le matériel, les corps des otages, etc. ?»«
Simple question de logistique. Nous nous accaparons des hommes dont nous avons besoin en prenant le contrôle de leur cerveau. Quoi de plus facile que de prendre un avion, acheter un billet de train quand on a une forme humaine ?»«
Prendre un avion, un train, mais pourquoi faire ? Et les personnes concernées ne se douteraient de rien ?»«
Non ? Souviens-toi de tes sensations. Tu as peut-être un déficit de l'inhibition latente, ce qui t'a permis de détecter davantage d'ondes que les autres.
Ça te dérangerait de traduire? Tu crois que je me balade avec un dictionnaire dans mes rêves?
C'est le processus neurologique inconscient qui nous permet de trier automatiquement toutes les informations que notre cerveau doit traiter, sans quoi nous serions submergés de stimuli. Les odeurs, les bruits de fond, les images, les sensations. Nous recevons à chaque seconde une multitude d'informations que nous zappons pour nous concentrer sur l'essentiel.
Donc, les personnes concernées ne se doutent de rien. Et les autres? Il doit bien y avoir des gens qui remarquent que les personnes que vous colonisez ont un comportement bizarre, non?
Avant même que Mento ne réponde, Lynn frissonne à l'idée de ces centaines de regards mornes et vides qu'elle a l'habitude de croiser le matin en prenant le métro et qu'elle a mis sur le compte du ras-le-bol généralisé, de la crise économique, du climat de pessimisme ambiant.
Yut, qui ne perd pas une miette des pensées de l'être humain, l'attire de sa rêverie.
Quod yuti placuit legis habet vigorem, énonce-t-il, sortant de son mutisme méprisant.
Lynn le regarde d'un air cruche, mais n'a pas le temps de l'interroger.
L'orang-outan dominant s'est lancé dans un monologue agité.
Notre réussite viendra. Vous vous prenez pour des dieux, vous occupez la terre comme si elle vous appartenait. Vous la polluez, vous détruisez nos espaces verts pour construire des villes, produire toujours plus, sans laisser la terre respirer, se régénérer. Sais-tu que 2 millions d'hectares de forêts tropicales sont détruits chaque année pour faire paître des animaux et faire pousser leur nourriture, animaux que vous élevez pour les manger et dont vous déversez les excréments non traités dans nos océans?
Vous me dégoûtez, vous les humains, et votre arrogance. Vous n'avez pas l'air d'avoir conscience de ce dont nous sommes capables. Nous vous avons pourtant donné suffisamment d'avertissements.
Oui, nit horn will, mut fühlen.
Qui ne veut rien entendre doit ressentir. Vous n'avez pas compris avec les incidents mineurs, panne de voiture, fissures dans les immeubles et les routes, incendies.
Lynn l'interrompt. Tu n'espères tout de même pas me faire croire que les animaux peuvent faire des dégâts au point de mettre en péril les activités humaines.
Tu n'as pas entendu parler de l'histoire des fouines bousillant les moteurs de voiture?
Si, vaguement.
Sais-tu combien de fouines ont provoqué la panne de 75 véhicules en une nuit? 5. Sais-tu combien de fouines il existe sur cette planète?
Oh, quel sagouin, c'est pas... Sagouin, je vais t'en coller une de sagouin, réplique le primate.
Je disais, ce n'est pas parce que tout à coup, des millions d'êtres humains vont découvrir le matin que leur véhicule est endommagé et qu'ils vont en mourir, reprend Lynn.
Non, ils ne mourront effectivement pas de la panne infligée à leur voiture, ni peut-être de l'incendie de leur maison, mais ils s'entretueront dans la panique. Dans un événement traumatisant, l'être humain a un instinct de survie surdéveloppé, c'est chacun pour soi, quitte à piétiner son voisin à mort.
À cette évocation, Lynn se remémore les images du drame du Hazel qui avait marqué son adolescence. Elle l'avait suivi en direct à la télévision juste avant la finale de la Coupe d'Europe en 1985. Les hooligans avaient semé la panique en attaquant les supporters de l'équipe adverse qui, pris de peur, s'étaient mis à refluer vers le bord de la tribune clôturée par un mur et des grillages. Le mur avait fini par céder sous la pression. Les gens se marchaient littéralement les uns sur les autres. 38 victimes, piétinées par la foule qui tentait de fuir. Yut découvre les images au fur et à mesure que la jeune femme ramène ses souvenirs au niveau de la conscience. Il poursuit sa démonstration. Même les déraillements de train, les disparitions d'avions « inexpliquées » entre guillemets n'ont pas suffi. Vos scientifiques tirent la sonnette d'alarme depuis des années déjà, mais vous poursuivez vos modes de consommation, de déplacement, de vie de la même façon. Nous sommes donc passés à une phase offensive. Nous avions pensé que vous comprendriez après les derniers accidents, mais ce ne fut pas le cas. Le dernier accident d'origine inconnue, comme vous dites, dans la centrale hydroélectrique en Russie, a fait des dizaines de morts et disparus. Parmi les humains, j'entends, car je suppose que tu n'en as rien à cirer d'apprendre que l'accident a aussi fait des victimes parmi les animaux, bien évidemment. Lynn n'en croit pas ses oreilles. Ces deux singes sont en train de lui faire gober que les animaux seraient à l'origine de tous ces accidents d'origine inconnue. Elle les invective. Vous cherchez quoi au juste? À nous exterminer? C'est complètement insensé.
Absorbée dans ses réflexions, elle n'a pas vu l'expression de profonde lassitude qui se peint sur le visage de Mento. Au bout de quelques secondes, ce dernier intervient dans un profond soupir.
Les humains nous laissent-ils le choix? Ils agissent comme si la terre leur appartenait. Ils nous exterminent, nous.
Lynn est atterrée. Attendez, vous n'avez peut-être pas tout envisagé. Peut-être l'être humain est-il indispensable à la survie de la planète. Qu'en savez-vous?
Elle n'a pas le loisir de développer ses arguments. Les primates ont disparu de son champ de vision. En une fraction de seconde, ses pensées l'ont transporté vers une vaste étendue de terre calcinée, un noir charbon couvrant uniformément le moindre centimètre carré de terre, branches aux trois quarts consumées, troncs déformés, encore fumants, tandis qu'au loin s'agite une armée de pompiers luttant contre un incendie de forêt qui les dépasse.
Sans transition, l'image fait place à un autre lieu de désolation. Un bataillon hétéroclite d'hommes jeunes et vieux, infirmiers, militaires, secouristes, s'active à fouiller les gravats poussiéreux de ce qui devait être un immeuble avant son effondrement. La scène suivante achève de conforter la jeune femme dans l'idée qu'elle cauchemarde. Les débris d'un fuselage pulvérisé éparpillés sur un rayon de 300 mètres. À peine a-t-elle compris qu'elle voit les restes d'un avion écrasé, qu'elle passe à la scène suivante. Lorsqu'elle voit arriver sur elle une vague de la hauteur d'un mur, Lynn hurle et se redresse en nage dans son lit.